Vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube en ce mercredi 4 mai et j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio Panique Bar Kim Jong-gur du festival Millennium et Sébastien Debeuil qui présente son film Usure. Bienvenue à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Bonjour.
Voilà donc, Bar, vous êtes de l'organisation du festival. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette 14e édition déjà d'un festival de films documentaires qui a lieu depuis 14 ans à Bruxelles?
Oui, bien sûr. Alors, le festival Millennium porte son nom en raison de la genèse en fait de ce festival qui est lié aux objectifs pour le millénaire qui avait été établi au début à l'aube de notre millénaire donc et donc on est historiquement lié si vous voulez aux axes prioritaires des Nations Unies, ce qui explique que nos films sont plutôt tournés vers des thématiques touchant la condition humaine. Ensuite, les objectifs du développement pour le millénaire donc ont été rebaptisés en objectifs de développement durable, ODD. Toujours est-il que nous sommes restés très attachés aux questions liées à l'humain, à ses préoccupations, à ses espoirs. Et donc nous en sommes aujourd'hui à la 14e édition. Une édition qui commencera demain, jeudi 5 mai, au Cinéma Palace avec la projection du film de Julie Bertuccelli, Dernière nouvelle du cosmos, et qui s'achèvera le vendredi 13 mai, facile à retenir, hein, vendredi 13, au Cinéma Beaux-Arts avec le film de Jafar Najafi, un auteur iranien, et dont le film s'appelle Makeup Artist. Alors oui, nous en sommes à notre 14e édition, donc on commence à avoir un peu de la bouteille, si je puis dire. Et cette année, nous avons surtout axé notre programmation sur la thématique démocratie et pouvoir. En fait, nous constatons qu'avec les mesures sanitaires, il y a une sorte de sinistrose qui s'installe dans notre société, un manque de perspective, un état d'humeur dépressive à peu près généralisé. Nous, à travers notre festival, nous aimerions mettre en quelque sorte l'art, la culture, le cinéma au milieu du village bruxellois, si je puis dire, et redonner un peu de peps, un peu de bonheur, un peu de joie de vivre à nos concitoyens. C'est aussi l'occasion pour nous de donner une tribune aux réalisateurs, à tous les travailleurs du cinéma, si je puis dire, qui ont été frappés de plein fouet par ces mesures de confinement, par l'isolement que nous avons tous connu. Donc, à travers le festival, nous leur donnons une tribune, la possibilité de renouer avec leur public, de pouvoir partager leurs expériences et leurs connaissances avec leur public et voilà, renouer le lien social en quelque sorte. Donc je pense qu'on a un apport bénéfique dans le lien social, dans le débat citoyen.
Et justement, quand on regarde votre programme, c'est un programme qui est foisonnant, qui est aussi rempli d'espoir, justement, de même si certains documentaires traitent de questions difficiles et compliquées, il y a cette vie justement qui émane de tous les films que vous présentez.
Oui, tout à fait. Il s'agit pas de nouveau de remuer le couteau dans la plaie. Au contraire, nous avons sélectionné des films dont les personnages sont hauts en couleur, dont les personnages qui, bien qu'ils souffrent, voient la vie du bon côté, se battent, essayent de transformer la société, essayent de transformer leur propre vie, se battre contre des gens de pouvoir extrêmement toxique, extrêmement nuisible. Je pense par exemple à Declaration of Love, l'histoire de cet homme prisonnier innocent aux États-Unis qui a passé 19 ans de sa vie dans les couloirs de la mort et qui pourtant continue à vivre et à aimer malgré l'immense souffrance qu'on lui a infligée, Declaration of Love. Il y a également Judges Under Pressure, qui est un petit peu, je ne vais pas dire le clou du spectacle, mais c'est un film qui a, paradoxalement, même s'il s'agit d'un film polonais, qui attire énormément de monde, parce qu'il s'agit de l'histoire de juges qui ont affaire avec un pouvoir politique en Pologne extrêmement liberticide. Ces juges, Igor Tuleya, Monika, se battent à corps perdu, mais avec humour, avec ironie, avec une certaine joie de vivre, face à un régime autoritaire. Judges Under Pressure a réussi à gagner, à conquérir le cœur de nombreux juristes et magistrats en Belgique, et donc même le ministre fédéral, notre ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn, a annoncé sa volonté de visionner ce film avec nous, donc jeudi 12 mai. Il y a encore d'autres films, Game of Truth, qui parle des méthodes de guerre psychologique utilisées par les forces britanniques en Irlande du Nord. Alors, l'Irlande du Nord ne parle pas à grand monde. Peut-être qu'avec Netflix, depuis que certains se sont découverts une certaine sympathie ou en tout cas un certain engouement par rapport à la série Peaky Blinders, l'Irlande est venue en quelque sorte à l'agenda du public bruxellois. C'est une autre thématique, même si ça touche la même, je dirais, le même territoire, la même géographie. Et là, on voit en fait que des gouvernements qui sont prétendument démocratiques en viennent à utiliser des méthodes carrément terroristes pour écraser des mouvements de lutte, de libération, comme celui des républicains irlandais. Alors, il y a encore d'autres films, je pense à El Silencio del Topo, qui est un film guatémaltèque, et qui nous parle d'un journaliste qui a réussi à infiltrer la dictature génocidaire des années 70-80. Je dis génocidaire parce qu'il y a eu quand même près de 250 000 morts. Mmh. C'était le génocide maya, perpétré par les juntes militaires au pouvoir au Guatemala, soutenu à bout de bras par Washington dans leur guerre froide face aux méchants communistes, donc. Et ce journaliste, Elias Barahonas, a risqué sa vie en infiltrant le ministère de l'Intérieur pour, en quelque sorte, tirer de l'information et les transmettre à ses camarades afin de les mettre à l'abri des rafles qui étaient menées au quotidien dans les rues guatémaltèques. Donc, il y en a encore des tas d'autres que j'aimerais citer. Alors, l'un de mes coups de cœur, et il s'adresse en particulier à un public belge et bruxellois d'origine marocaine, il s'appelle « Before the Dying of the Light », hein, comme son nom l'indique. Ça parle d'une certaine lumière, une lumière créatrice, une lumière artistique, qui avait le vent en poupe dans les années 70 au Maroc. C'était une époque qui, paradoxalement, était quand même une époque aussi d'extrême répression. C'est ce qu'on a appelé la décennie ou les années de plomb. Et bien, dans ce contexte extrêmement tendu, il y a des artistes qui ont créé en direction et au service de la population. Alors, vous voyez dans ce film quelque chose qui nous manque de voir, en quelque sorte. Des troupes de théâtre descendent dans les quartiers, de l'art participatif avec la population, du cinéma engagé, du cinéma progressiste. Toute cette génération a été finalement écorchée, martyrisée par le pouvoir. Et j'invite le public bruxellois et en particulier le public belgo-marocain à venir voir ce film, c'est aussi pour qu'ils se réapproprient une partie de leur histoire, une partie de leur mémoire que la monarchie marocaine a détruite en quelque sorte. Et ce film passera ce dimanche 8 mai. Voilà.
Et Sébastien De Beul, dans cette programmation, comment vous vous situez avec votre film? Quelles sont vos intentions, vous, en faisant des documentaires, en essayant de montrer plutôt une intériorité qui, dans votre film Usure, qui lui sera projeté le 7, donc samedi, au Cinéma Galerie?
Alors, c'est le deuxième film que je passe au Millennium, donc c'est un festival qui me tient à cœur. Dans le traitement de ce film-ci, c'est vrai que c'est assez différent parce qu'on ne voit pas le protagoniste à l'image, puisqu'il n'a pas voulu ni parler, ni être à l'image. Donc on a exploré, rempli le vide que lui a laissé avec des corps dansants et des paroles qui reflètent un peu son état intérieur.
Et donc, vous pouvez nous expliquer un peu quel est le point de départ justement de ce film Usure, quel est le... Que Barre parlait aussi de rencontres et de faire se rencontrer aussi des gens venus d'horizons différents. Est-ce que ça a été le cas avec vous? Est-ce que c'est vraiment le fruit de cette rencontre?
Alors oui, le point de départ du film, c'est une rencontre avec Saïd, qui était chorégraphe avant d'être sans abri. Et ça, c'est venu vraiment nous inspirer tous dans notre process où... Avant de rencontrer Saïd, on travaillait sur les flux et on essayait de comprendre comment une masse se déplace et comment l'influencer, la ralentir, l'accélérer. Et la rencontre avec Saïd a été déterminante pour en fait ancrer cette recherche dans quelque chose de plus de l'ordre d'une rencontre ou d'une non-rencontre, parce que finalement il est même pas là, mais il est représenté dans son absence.
Et dans votre démarche artistique, quelles sont vos inspirations justement? Est-ce que cette situation mondiale dramatique, on va dire, enfin, et qui pose question et qui est dure et difficile pour une grande partie de la société, est-ce que ça influence votre travail ou est-ce que vous avez d'autres sources d'inspiration?
Bah ici, l'enjeu était évident que pendant toute cette période de crise sanitaire qu'on a tous vécu, les personnes qui étaient les plus invisibilisées et les plus touchées par ça, c'était les gens les plus précarisés, surtout quand on devait pratiquer les gestes barrières qui étaient déjà pratiqués à leur rencontre bien avant toute forme de crise sanitaire. On est déjà très loin de ces personnes. Et le confinement n'a pas du tout aidé cette situation. Alors quelque part, oui, il y a eu l'envie de pallier à ça et d'aller vers l'autre, vers quelque chose qu'on connaît moins, et de casser le mythe de quelqu'un ou de quelque chose de qui on peut pas parler en fait. Et on a voulu aller à la rencontre de tout ça et faire un film en fait sur. Sur ce sujet-là.
Et justement, en tant que festival, dans un festival de documentaires, justement, c'est important de pouvoir donner à voir ceux et celles qui sont invisibilisés d'habitude. Justement, est-ce que c'est quelque chose qui apparaît en filigrane ou bien de façon très très marquée dans d'autres films? Justement, cette façon, enfin, ce désir de pouvoir montrer l'invisible ou ce qui est invisibilisé, en tout cas.
Oui, certainement. Et je dirais même que le cinéma documentaire a pour vocation de montrer finalement les acteurs du quotidien. Il ne faut pas être millionnaire pour écamper le rôle de quelqu'un d'autre pour représenter quelque chose d'important. Il y a plein de gens importants autour de nous. Il y a plein de héros autour de nous. Des gens qui se battent au quotidien contre les conditions difficiles qu'ils subissent. Il y a un film comme ça qui s'appelle Sopro que nous programmons dans notre festival. C'est l'histoire d'un couple de Hollandais qui a investi sa toute petite fortune dans une maison au Portugal et puis un incendie de forêt se déclare. Ils perdent tout et ils se retrouvent à prendre leur bain qui est tout nu, qui est sur une motte de terre, sur un morceau de terrain complètement autour d'un... Enfin, à côté d'un bâtiment en ruine. Et ils regardent les étoiles et puis... Il continue à espérer. Donc ce genre de personnage nous inspire beaucoup. Et les festivals, justement, donnent l'occasion de faire ce pont entre le global et le local, entre les artistes qui sont à portée de main et ceux qui se trouvent à l'autre bout de la terre. Je pense par exemple à cet homme d'origine russe qui a décidé de créer une sorte de Jurassic Park, mais avec des animaux préhistoriques toujours existants.
Et ce film s'appelle Pléistocène Park, donc une sorte de Noé perdu en Sibérie. D'ailleurs, son projet est soutenu par des scientifiques américains. Et donc voilà, on a un homme qui, avec son fils, essaye de faire vivre l'espoir à son échelle. Ce genre de personnes nous inspire énormément. Mmh. Et donc, ils ont toujours leur place. Et les artistes qui les promeuvent aussi. C'est aussi l'occasion, le festival est aussi l'occasion d'échanger avec ceux qui ont pu entrer dans l'intimité de ces héros du quotidien.
Et justement, est-ce que pour vous, Sébastien, c'est Saïd, le chorégraphe sans-abri que vous avez rencontré et que vous évoquez dans ce film, est-ce que c'est aussi un héros du quotidien? Est-ce que c'est
Pour moi, oui, et on verra si c'est le cas pour les spectateurs, mais c'est un héros du quotidien dans le sens où il se tient à ses valeurs, c'est un vrai stoïcien, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup exploité dans le film d'ailleurs, le fait qu'il se retire du monde, ou il s'est expliqué maintenant qu'il s'est retiré du monde volontairement, même s'il y a des causes préalables qui font qu'il subit cette situation. C'est pas un choix total, mais quelque part il a décidé comme un choix de se retirer du monde pour mieux l'observer. Et c'est des fois un peu ce que peut faire un réalisateur ou n'importe quel artiste pour réellement comprendre le monde avant d'exprimer une volonté. Donc on est loin d'un geste prétentieux, c'est quelque chose de l'ordre de cette valeur stoïcienne de avant d'exprimer une volonté, je me retire du monde, j'observe, je regarde et après j'agis.
Et justement, pour préparer, dans les échanges de mails qui ont eu lieu pour préparer cette émission, pour l'organiser, vous avez envoyé des extraits de deux auteurs, c'est Geoffroy de Lagasnerie et René Daumal, qui sont deux personnes, on dirait, qu'on n'associerait pas forcément. Et donc, comment vous faites cette synthèse entre une vision plutôt poétique de René Daumal et la vision actuelle, politique, engagée de...
Je pense que les deux évoquent à des manières différentes des choses essentielles sur la philosophie, l'esthétique et la morale. Et René Daumal a écrit un très grand texte qui s'appelle La guerre sainte, qui est en fait une guerre qu'il faut mener contre soi-même pour mieux comprendre le monde et mieux l'habiter. Et donc c'est là que je pense que ça rejoint la Gannerie, dans le sens où il nous invite aussi à faire une guerre sainte contre l'art qui est à côté du monde, l'art qui n'est pas engagé dans quelque chose de social ou d'une envie de changer quelque chose, de créer une rupture. Et donc René Daumal est complètement dans cette lignée, où les deux se rejoignent là pour moi. Mm. J'ai un petit texte, mais on pourra peut-être le
Si le vous lire voulez, on a le temps, vous pouvez le lire.
Peut-être on peut finir par ça, parce que c'est, okay, c'est un bon
texte de clôture. Ok, pas de souci. On finit par ça. Je voulais revenir peut-être sur le festival et donc votre film, Sébastien, il est sélectionné pour la compétition Jeune Talent Belge. Est-ce que vous pouvez, nous dire un peu les différentes compétitions et les différents focus qu'il y aura lors du festival?
Oui, alors, le cinéma documentaire est extrêmement exigeant et demande une énergie incroyable. Et nous voulons justement rendre hommage et faire honneur à tous ces véritables combattants qui passent des mois, des années à réaliser leur œuvre. Et donc, les remercier, c'est aussi faire en sorte que leurs œuvres puissent entrer en compétition et recevoir et être lauréat d'un prix. Et donc on a plusieurs compétitions, une compétition internationale, une compétition jeune talent belge, pour justement promouvoir les nouveaux les nouveaux réalisateurs. Il y a un jury du public. Il y a un jury composé uniquement de jeunes. Et c'est par rapport à leur sensibilité que l'on choisit le film qui nous a le plus touché. Donc il y a une série de compétitions. Donc c'est peut-être pas le Festival de Cannes, mais l'esprit, je ne dirais pas de concurrence, c'est pas vraiment le but. C'est vraiment de faire en sorte que on puisse voir un maximum d'œuvres récentes. Hein. Nos films datent de 2021-2022. Il y a des premières mondiales également. C'est donc donner à la fois une visibilité à l'œuvre et à l'artiste. Parce que dans le cadre du festival, il y a également la possibilité pour l'artiste de rencontrer des journalistes, pas uniquement le public. Donc c'est vraiment servir, faire en sorte que le festival puisse être un tremplin pour toutes et tous les réalisateurs qui seront présents.
Et donc, par rapport à ça, Sébastien, vous êtes là pour parler de votre film au cours du festival. Il y a des moments aussi dédiés avec des rencontres avec le public qui viendra voir le film, mais d'autres moments avec des écoles ou ce genre de choses. C'est un des souhaits du festival aussi de pouvoir toucher ce public.
C'est l'un des souhaits du festival. Alors, comme la communication a été rompue ou interrompue ces dernières années à cause des mesures sanitaires. Nous tenons en particulier à ce que les gens se rencontrent. Et donc il y a plusieurs initiatives qui ont été prises en marge du festival, notamment les discussions qui suivent la plupart des films. On a fait appel par exemple, suite à un film plutôt pénitentiaire ou lié à la justice, à des acteurs de ces professions-là, qu'ils partagent avec le public aux côtés des réalisateurs. On a également pris rendez-vous avec un certain nombre de journalistes pour organiser ces rencontres avec les réalisateurs. Il y a ce qu'on appelle les 5 o'clock qui sont destinés à faire des convergences et peut-être aider à certaines collaborations entre réalisateurs. Parce que on a constaté que finalement, il n'y a pas que le public qui demande à pouvoir partager avec les réalisateurs, mais les réalisateurs ont aussi besoin de se rencontrer, et c'est pas toujours évident, ils n'en ont pas toujours l'occasion. Et donc il y a en particulier les 5 o'clock que je voudrais souligner, et puis par ailleurs, il y a un travail effectivement qui est fait par rapport aux écoles, par rapport aux maisons médicales. Je pense par exemple à notre film d'ouverture, Dernière nouvelle du Cosmos, qui touche à la question de l'autisme et des talents souvent insoupçonnés que nos enfants autistes peuvent avoir. Eh bien, nous avons travaillé avec certaines maisons médicales, certaines écoles aussi, certains groupes de parents que nous avons invités, et tout le secteur de la santé mentale aussi qui est cordialement invité à partager ce moment autour d'un film très touchant, très inspirant. Et aussi la possibilité d'échanger avec la réalisatrice du film, Julie Bertuccelli.
Et justement, à propos de Julie Bertuccelli, plusieurs de ses films seront projetés aussi au cours du festival. Il y a un focus
il y a une sorte de cycle Julie Bertuccelli, notamment Depuis Cotard est parti, qui avait été accueilli par la critique il y a une vingtaine d'années déjà, un film magistral que j'ai découvert il y a bien longtemps, et donc d'autres films de Bertuccelli que nous aurons l'occasion de montrer lors de ce festival, oui.
Et Sébastien, justement, quel genre de film, dans cette profusion de documentaires qu'on peut voir dans un festival comme Millennium, est-ce qu'il y a des choses qui attirent votre regard à vous en tant que documentariste, enfin que faiseur de films?
J'ai très envie de découvrir le travail de Julie Bertolucci, notamment le film d'ouverture. J'ai aussi envie de voir Game of Truth, mais j'ai pas encore eu l'occasion de trop me plonger dans le programme. J'ai vraiment hâte de découvrir ça, un super festival où tu découvres tellement de choses, il y a beaucoup de rencontres, ça se passe dans 5 cinémas différents, c'est assez vibrant et actif comme communauté qui est mobilisée dans ce festival.
Et c'est ces rencontres, justement, c'est quelque chose qui est que vous, auquel vous aimez participer, parce que j'imagine que comme partout, il y a des réalisateurs, réalisatrices plus sociables que d'autres. Est-ce que vous participez à ça? Est-ce que ça a une importance pour vous aussi de pouvoir justement se rencontrer et faire réseau?
C'est important après 2 ans en salle de montage de sortir de sa grotte et de rencontrer d'autres humains qui font la même chose.
De se retrouver dans une autre grotte, en quelque sorte, le cinéma.
Dans la grotte sacrée du temple du cinéma.
Et alors, c'est d'autant plus chouette que vous soyez attiré par le film Game of Thrones, que nous aurons l'occasion également d'écouter quelques minutes un avocat qui a défendu des républicains irlandais qui étaient persécutés par Margaret Thatcher dans les années 80. Dont il a empêché l'extradition. C'est un avocat flamand qui s'appelle Paul Beckart. Il est membre du barreau de Bruges et il est depuis quelques années maintenant avocat à la Cour pénale internationale. Donc c'est quelqu'un qui est très sensible à la question irlandaise. Eh bien, ça me ferait vraiment plaisir que vous ayez l'occasion de parler avec lui, par exemple.
Et sinon, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous allez voir en termes de documentaire, sinon, Sébastien?
Alors moi, je suis un grand fan du travail de Adam Curtis, qui est un documentariste de la BBC, qui se considère pas du tout comme un artiste et qui fait des sortes de collages vidéo, de relectures historiques, mais plutôt sur le plan de l'émotion, et qui évoque notamment les abus de la couronne d'Angleterre ou de sabotage américain de projets communistes en Amérique latine. Et c'est très interpellant, en même temps poétique, avec quand même pas mal de musique et une voix off qui nous entraîne dans cette émotion compliquée des fois de relecture historique. C'est des films très longs qui font 3 heures, donc il faut bien s'accrocher.
Être bien installé, en tout cas.
Et sinon, j'ai découvert récemment le travail de Théo Anthony, qui fait des films quand même assez hybridants. Il a fait un film, par exemple, sur les rats à Baltimore, et on suit des chasseurs de rats, et puis on suit aussi des architectes qui font des cartes des liens entre la précarité et la présence des rats. Et donc ça va vraiment dans tous les sens, mais c'est quelque chose de très vivant et qui renouvelle la forme, qui est pas simplement de relater du réel, mais aussi chez lui, l'envie de montrer une autre facette de ça, de plein de domaines différents, en fait, qui s'entrecroisent et qui se retrouvent dans le film.
Et vous, Bahar, qu'est-ce qui attire votre regard?
Alors, tous les films. Vraiment, si on les a sélectionnés, c'est parce qu'on en a été vraiment touchés, émus, on a été complètement emballés. Il faut savoir qu'on a dû visionner près de 600 films. Et que les 70 ou 72 films que l'on a sélectionnés, c'est après mûre réflexion, après une vision collective. Et donc, tous ces films nous intéressent. Je pense qu'il est important aussi pour moi de rappeler que la société civile a tout à fait sa place. Dans ce festival, d'ailleurs, certaines ONG sont invitées en tant que partenaires pour certaines des séances. Je pense à Ghost of Afghanistan, qui est un film sur la guerre terriblement inutile que nous avons menée dans ce pays pauvre. Ghost of Afghanistan est une projection qui sera organisée en partenariat avec la CNAPD, donc la Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie. Il y aura également le philosophe flamand Leven de Kouter qui viendra parler, lui, d'une autre guerre qui a coûté des centaines de milliers de vies et qui a finalement fait en sorte que ce pays enfante un monstre qui s'appelle Daesh, à savoir l'Irak. Leven de Kouter a été le président de la Brussels Tribunal, qui est un tribunal un peu fictif, symbolique, inspiré de ce que Russell avait fait aux États-Unis durant la guerre du Vietnam. Alors, il y a d'autres films qui sont portés justement par des héros du quotidien, des héros marginalisés, des héros très pauvres, notamment ces femmes en Inde qui font partie de la caste des intouchables, hein, des Dalits, et qui se voient recevoir un téléphone portable et commencent à une activité journalistique. Elles montent leur journal, un journal féminin qui veut rendre compte de la réalité sociale, et ils veulent la transformer. Et donc c'est un film tout à fait, vraiment extrêmement touchant de voir toutes ces femmes qui savent même pas ce que c'est qu'un GSM, et qui se mettent à écrire et à interpréter leur monde et à se battre dans un monde extrêmement masculin. Et donc à l'occasion de la projection de ce film, il y aura des personnalités de l'ONU qui seront présentes. La projection se déroulera au SIVA, et il y aura parmi les oratrices et orateurs une membre, Sylvie Pinchard, directrice de l'ASBL Réécrire. Il y aura également Dagmar Schumacher, qui est la représentante des Nations Unies Femmes, ici en Belgique. Alors il y a d'autres films où il y aura d'autres personnalités et d'autres membres de la société civile présentes. Je ne vais pas toutes les citer, mais pour le film Media Crash, qui touche par exemple qui dénonce en quelque sorte la mainmise du monde de la finance et des milliardaires sur la presse en France, et toutes les implications en termes de censure que ça peut provoquer. Donc ce film, Media Crash, sera animé par plusieurs journalistes, notamment Marc Molitor et Jean-Jacques Jespers. Il y aura également l'une des réalisatrices, Valentine Auberti, viendra de France pour parler de son film.
Et c'est d'autant plus d'actualité que je pense qu'il y a une étude, un graphique qui vient de sortir justement, qui montre que ce monopole de la presse aux mains de quelques-uns en France se renforce au fil du temps, en fait.
Absolument, nous sommes au lendemain de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Mmh. Faut-il rappeler qu'il y a un journaliste en Grande-Bretagne qui risque sa vie s'il est extradé? Il subit un calvaire depuis plusieurs années, et un grand nombre de journalistes refusent d'exprimer la moindre solidarité avec cet homme. On préfère aller dénoncer ce qui se passe en Chine, en Turquie, c'est très bien, mais si on veut être honnête avec soi-même, il faut pouvoir dénoncer les injustices qui sont commises sur le pas de notre porte. Et donc ce journaliste s'appelle Julian Assange, et j'en profite pour rappeler qu'il est important, urgent, de plaider pour sa libération, voire pour son accueil en Belgique. Mmh. Et donc j'espère que notre festival contribuera également à faire entendre la voix de ces combattants de la liberté, de combattants de la liberté tels que Julian Assange.
Merci beaucoup. Sébastien, vous aviez envoyé des extraits que j'ai retrouvés, donc ils sont bien là. Est-ce que parmi les trois que vous aviez envoyés, est-ce que vous souhaitez que j'en diffuse en particulier?
Ouais, peut-être le premier.
Le premier, qui s'intitule donc Usure, extrait 1. Eh bien, on va voir si on peut passer ça. Et voilà. Et on se retrouve juste après ces 2 minutes 20 d'extrait que vous nous expliquerez donc. Une minute, et puis ça va aller.
Peut entendre encore. J'habite parmi les fantômes de tes passages. suis la gardienne de la crasse. Cette crasse qui s'amasse dans mes recoins est aussi ta crasse. En fait, c'est notre crasse. Je la garde sous ma peau. Je la porte comme un manteau. Je dors dessus. Je mange dessus. Je veille sur nous. Mais de quoi est-elle le nom, cette crasse? Les traces que laissent tes souliers, ces milliers de parcours dissipés que tes semelles emmènent. Tout ce que tu laisses, ce qu'il restera de nous, je le prendrai.
C'est une excellente.
Voilà un extrait donc de votre film.
Oui, c'est l'introduction. En fait, c'est les trois premières minutes du film. D'une voix qui représente un peu la matrice, c'est l'esprit du tunnel, donc quelque chose de maternant qui englobe tout, en fait, toutes les vies qui sont passées par là, tous les petits passages, les trajectoires. Ben, cette âme-là a tout vu et elle parle de ce point de vue à travers presque l'aspect spectral de Saïd dans le film. Donc c'est un peu comme un appel à l'au-delà, comme si il était déjà un peu éternel.
Et vous aviez dit que vous alliez lire un extrait, donc je propose, comme il est 8h45, qu'on donne peut-être les dernières informations sur le festival, Bar, les tickets, où ça se passe, comment avoir plus d'infos, et puis je vous laisserai la parole, Sébastien, pour lire cet extrait.
Oui, alors brièvement, le Festival Millennium commence demain, jeudi 5 mai, avec la séance d'ouverture au Cinéma Palace, boulevard Anspach, numéro 85, et la projection du film de Julie Bertuccelli à 19h. Ensuite, le même film, Dernière nouvelle du cosmos de Julie Bertuccelli, passera à Beaux-Arts à 20h30. Donc, il y a deux séances d'ouverture demain. Le festival se terminera le vendredi 13 mai avec Make-up Artist de Jafar Najafi, un magnifique film iranien, et la remise des prix. Entre ces deux dates, il y a 70 projections qui s'articulent autour de 6 cinémas. Il s'agit du SIVA, l'école d'architecture à Ixelles, du Vendôme, près de la porte de Namur, Beaux-Arts. Ensuite, il y a Aventure, Galerie et Palace. Les projections ont lieu soit à 19h, soit à 21h pour la plupart. Les tickets sont disponibles sur les sites des cinémas en question, accessibles via notre site web qui est festivalmillennium.org. Je pense avoir fait le tour de la question.
Et il y a encore des places pour tout.
Il y a encore des places pour tout. Et n'hésitez pas.
D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a des places à offrir aux auditeurs, auditrices de Panique, justement pour la projection du film de Sébastien. Attendez que je reprenne le mail. Donc, on a deux fois deux places à offrir pour la projection de Usure plus d'Objectif Becomes. Donc, c'est samedi 7 mai à 19h au Cinéma Galerie. Et donc, pour tenter de remporter ces places, envoyez-nous un message à concours@radiopanique.org et avec en titre d'objet, en objet Usure. Et on vous tirera au sort jeudi demain midi. Voilà. Sébastien Barre, merci beaucoup d'être venu. Et Sébastien, je te laisse la parole donc, pour cette lecture.
Juste pour préciser, c'est le tout début de la guerre sainte de René de Malle. Je vais faire un poème sur la guerre. Ce ne sera peut-être pas un vrai poème, mais ce sera une vraie guerre. Ce ne sera pas un vrai poème parce que le vrai poète, s'il était ici, et si le bruit se répandait parmi la foule qu'il alla parler, alors un grand silence se ferait, un lourd silence d'abord se gonflerait, un silence gros de mille tonnerres. Visible, nous le verrions, le poète. Voyant, il nous verrait, et nous pâlirons dans nos pauvres ombres. Nous lui en voudrions d'être si réels, nous les malingres, nous les gênés, nous les toutes choses. Il serait ici plein à craquer des mille tonnerres de la multitude des ennemis qu'il contient. Car il les contient, il les contente quand il veut. Incandescent de douleur et de sacrée colère, et pourtant tranquille comme un artificier. Dans le grand silence, il ouvrirait un petit robinet, le tout petit robinet du moulin à paroles, et par là nous lâcherait un poème, un tel poème qu'on en deviendrait vert.
Merci, c'est pas tous les mercredis matins qu'on lit René de Malle dans Les Promesses de l'Aube. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus et longue vie au Festival Millennium. Et franchement, ça met l'eau à la bouche en tout cas de voir cette belle programmation.
Merci pour votre accueil.
Merci.
Merci à tous les deux et peut-être une soirée du festival. Et donc, rappelle le concours pour la projection de ce samedi 19h du film de Sébastien Debeuil, L'Usure. 2 fois 2 places à remporter. Merci beaucoup.